Vous êtes bien sur Radio Orient, votre magazine d'information, Nawal Alamouchi. Au sixième jour d'une guerre entre Israël et l'Iran, Donald Trump a entretenu le doute aujourd'hui sur la possibilité que les États-Unis effectuent des frappes sur l'Iran, tandis que les bombardements israéliens se poursuivent à Téhéran, la capitale iranienne. Toujours au Proche-Orient, à Gaza, au moins 33 personnes, dont 11 venues chercher de l'aide humanitaire, ont été tuées par l'armée israélienne aujourd'hui, selon la défense civile. En France, quelques 4000 forces de l'ordre seront mobilisées aujourd'hui et demain lors d'opérations de contrôle national contre l'immigration illégale dans les gares et les bus. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Dans notre point actualité, tout d'abord, cap sur le Moyen-Orient, où des puissantes explosions ont été entendues dans la capitale iranienne. Israël a annoncé dans l'après-midi que des frappes étaient en cours sur des cibles militaires à Téhéran et que le quartier général de la sécurité intérieure avait été détruit. Et Donald Trump a entretenu le doute sur la possibilité que les États-Unis effectuent des frappes sur l'Iran. « Je vais peut-être le faire ou peut-être pas », ce sont les mots du président américain. Et plus tôt dans l'après-midi, le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a proclamé que son pays ne se rendra jamais et a mis en garde les États-Unis contre des dommages irréparables, selon ses mots, en cas d'intervention dans la guerre que le pays mène contre Israël. Et en France, Emmanuel Macron tient en ce moment même à l'Élysée un conseil de défense sur le conflit et ses implications pour les ressortissants et bases françaises dans la région. Toujours au Proche-Orient, à Gaza, au moins 33 personnes, dont 11 venues chercher de l'aide humanitaire, ont été tuées par l'armée israélienne aujourd'hui, selon la défense civile. En Ukraine, le bilan de l'attaque russe massive sur Kiev survenue dans la nuit de lundi à mardi s'est alourdi à 21 morts selon les services de secours après que de nouveaux corps ont été dégagés des décombres. Et le G7, le regroupement des chefs d'État des 7 plus grandes puissances qui a eu lieu au Canada cette année, a de nouveau apporté son soutien à l'Ukraine mais sans durcir le ton face à la Russie. La Commission européenne a ouvert aujourd'hui la voie à une lourde amende contre AliExpress, le géant chinois du commerce en ligne. La Commission a estimé à titre préliminaire qu'il ne gérait pas suffisamment les risques liés à la vente de produits illégaux comme des contrefaçons ou des articles non conformes aux normes de sécurité européennes, et ceci malgré des progrès. Et enfin, l'actualité en France, quelques 4000 forces de l'ordre seront mobilisées aujourd'hui et demain lors d'opérations de contrôle national contre l'immigration illégale dans les gares et les bus. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. C'est la fin de votre point actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au tour d'horizon de l'actualité. Et on commence par l'actualité au Proche-Orient, où la tension est maximale avec ce conflit militaire entre Israël et l'Iran. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a affirmé que l'Iran ne se rendra jamais et a mis en garde les États-Unis contre des dommages irréparables, selon ses mots, en cas d'intervention dans le conflit qui l'oppose à Israël. Le point avec Salma Darlaoui.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump, allié d'Israël, a appelé l'Iran à capituler sans condition et menacé publiquement le guide suprême. Depuis plusieurs jours, l'Iran et Israël échangent des frappes de missiles. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Israël a détruit 2 bâtiments de production de centrifugeuses et plusieurs sites de fabrication d'armes près de Téhéran, des installations clés pour l'enrichissement nucléaire. Israël justifie ses attaques par la crainte que l'Iran atteigne le point de non-retour vers la bombe atomique, ce que Téhéran dément, affirmant ne poursuivre qu'un programme nucléaire civil. Un bilan humain qui peut encore s'alourdir, mais qui est déjà conséquent. Une 100aine de morts côté iranien, une 20aine du côté israélien, selon les autorités. Pour la première fois, un drone israélien a été abattu au-dessus du territoire iranien, tandis que l'Iran a tiré des missiles balistiques hypersoniques sur Israël. Face à l'escalade, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans la région et ferment temporairement leur ambassade à Jérusalem. Si Washington décidait d'entrer dans le conflit, la bombe anti-bunker GBU-57 pourrait être utilisée contre les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies, selon des experts. Dans ce contexte explosif, l'ayatollah Khamenei prévient « L'Iran s'opposera à toute guerre imposée, mais aussi à toute paix imposée ». La tension reste vive alors que la communauté internationale redoute un embrasement régional.
Les États-Unis sont-ils au bord de la guerre contre l'Iran ? Le général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française à l'ONU et spécialiste des relations internationales, nous fait part des différents scénarios possibles.
Écoutez, aujourd'hui, les Américains ont deux scénarios possibles. Le premier, continuer leur soutien pour la défense d'Israël, ce qu'ils font en déployant le porte-avions Nimitz. Ça fait deux porte-avions déployés, plus d'autres avions déployés dans la région. Mais donc, soutien d'Israël, mais pas d'implication directe dans les attaques. La deuxième option, c'est bien sûr, avec des avions américains, en particulier les B-2 et B-52 qui sont prépositionnés à Diego Garcia, de bombarder eux-mêmes l'Iran, en particulier avec des bombes qui permettent d'aller très profondément dans les bunkers, les GB-57, que seuls les Américains ont à leur disposition. Donc c'est soit un soutien à Israël, comme c'est le cas aujourd'hui, soit une implication directe des États-Unis dans la guerre contre l'Iran.
Vous évoquez la GBU-57, cette bombe anti-bunker, c'est une bombe ultra-puissante.
Oui, tout à fait. Suivant les données théoriques, elle peut percer jusqu'à 60 mètres de terre et de béton et donc exploser à l'intérieur. Alors évidemment, on ne sait pas, tant que ça n'a pas été exécuté, si ça aura la capacité d'atteindre les dispositifs iraniens qui sont non seulement très profonds, mais en plus à flanc de montagne, ce qui est difficile à atteindre compte tenu de l'incidence de la bombe. Mais ce sont de toute façon les seuls moyens capables de le faire.
C'était le général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française à l'ONU, au micro de François-Xavier de Calonne. Et sur cette confrontation militaire entre l'Iran et Israël, le Premier ministre François Bayrou, interrogé au Sénat ce mercredi, a rappelé que la France était attachée au droit. On l'écoute.
Ce qui se passe en Iran, c'est que toutes les organisations internationales chargées de la surveillance et de la lutte contre la prolifération nucléaire, ces organisations internationales ont dit attention, l'Iran est à quelques semaines, peut-être à quelques jours, d'avoir enrichi suffisamment de matières fissiles pour que on se trouve devant le risque immédiat de bombes nucléaires. Or, l'Iran a dit à de multiples, j'allais dire innombrables reprises, que le but de son armement nucléaire, c'était de détruire Israël. Et donc, si on essaie de réfléchir en se mettant à la place des gouvernements, le gouvernement israélien, je comprends qu'il ait eu un souci énorme à voir à ses portes un risque aussi considérable que celui-là qui menace sa survie. Que fait la France ? Ben vous le savez, à Gaza, elle dit vous ne devez pas aller plus loin, il faut rendre la liberté de circulation, il faut rendre la liberté d'approvisionnement à Gaza. Et en Iran, elle appelle, comme c'est diplomatiquement l'expression, à la retenue en sachant très bien les risques immenses qui sont en train d'être courus par la paix du monde et dans cette région par une déstabilisation de très longue durée. La France défend ces principes-là en sachant très bien devant quel risque nous sommes, en mesurant ce risque et en décidant de joindre nos efforts, comme le président de la République le fait depuis des jours, à tous ceux des pays du monde qui souhaiteraient que l'équilibre et le calme reviennent. Voilà la politique française, elle respecte les principes, elle respecte les lois internationales, sauf pour ceux qui ont décidé, ou en tout cas, sans fermer les yeux sur ceux qui ont décidé, eux, de ne pas les respecter.
C'était le Premier ministre François Bayrou. Dans un tout autre volet, le fabricant automobile Citroën a annoncé l'immobilisation immédiate de toutes les Citroën C3 et DS3, encore équipées d'airbags Takata en Europe, après un nouvel accident mortel à Reims le 11 juin dernier. Les précisions avec Salma Darlaoui.
Une femme de 37 ans a perdu la vie lorsque l'airbag de sa C3 de 2014 a explosé lors d'un choc, provoquant de très graves blessures selon le procureur de Reims. Face à ce drame, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a exigé l'arrêt de tous les véhicules concernés, une mesure baptisée « Stop Drive » pour permettre le remplacement rapide des airbags défectueux. Jusqu'à présent, seuls certains conducteurs étaient invités à faire remplacer leur airbag, mais pouvaient continuer à utiliser leur voiture. Ce rappel massif concerne 441 000 Citroën C3 et DS3 à travers l'Europe, dont 82 000 en France, quel que soit leur millésime. Citroën appelle les clients à contacter le réseau sans délai pour organiser la réparation, s'engageant à retirer chaque airbag Takata de ses véhicules. Depuis 2014, le scandale des airbags Takata a provoqué des millions de rappels dans le monde en raison d'un gaz interne qui vieillit mal et peut transformer ses dispositifs de sécurité en projectiles mortels, surtout en climat chaud et humide. En France, on recense désormais 18 décès et 25 blessés liés à ces airbags, dont 2 morts en métropole. L'association de consommateurs UFC Que Choisir dénonce un manque de réactivité du constructeur et demande la création d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les responsabilités. Une enquête pour homicide involontaire est en cours au parquet de Paris. Nous vous invitons donc à rester prudents et si vous possédez une Citroën C3 ou DS3, contactez immédiatement votre concessionnaire.
Et dans un tout autre volet, dans son rapport annuel, la Commission nationale consultative des droits de l'homme met en lumière un mal invisible mais dévastateur, le racisme ordinaire. Un racisme du quotidien, souvent inconscient, qui affecte profondément la santé physique et mentale de ses victimes dès le plus jeune âge, selon le rapport. Les précisions avec vous, Arthur-Claude Savoie.
Dans son dernier rapport, la CNCDH dénonce un racisme ordinaire, intégré dans tous les gestes et les propos les plus banals. Ce racisme-là, souvent inconscient, touche tous les plans de la société, selon ce rapport, et s'exprime dès l'enfance. Blagues en apparence anodines, stéréotypes dans les cours d'école et inégalités de traitement dans le monde médical. En un an, le nombre d'actes racistes dans les établissements scolaires a triplé, atteignant 3600 signalements. Des actes qui ne sont pas mis en lumière, mais pourtant dont les conséquences sont lourdes. Stress chronique, dépression, perte d'estime de soi. Les enfants racisés grandissent avec une hypervigilance constante. L'expression utilisée dans ce rapport, c'est une charge raciale qui les pousse à s'adapter en permanence. Le rapport pointe également les biais radicaux dans les soins médicaux. Selon une étude menée par le professeur Xavier Bobia du CHU de Montpellier, un homme blanc a 50% de chances de plus d'être évalué en urgence vitale qu'une femme noire. C'est ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen, un stéréotype selon lequel les personnes racisées exagèrent leurs douleurs. Parfois, les conséquences peuvent être dramatiques, comme par exemple le cas de 2 patientes toutes les 2 décédées, Naomi Muzanga rayée au téléphone par l'opératrice du SAMU en 2017 alors qu'elle appelait à l'aide, et Aïcha, 13 ans, qui en 2023 avait été accusée de simuler un malaise par les pompiers. Face à ce constat, la CNCDH recommande des formations obligatoires pour les soignants et enseignants, et des études scientifiques pour mieux comprendre l'impact du racisme sur la santé, une urgence invisible mais qui pourtant est bien réelle.
Et enfin, face à l'augmentation alarmante des cancers de la peau, la Ligue contre le cancer lance une campagne de prévention au ton décalé. L'objectif, réveiller les consciences avant l'été et rappeler que les UV sont responsables de la majorité des cas. Les détails avec Arthur-Claude Savoie.
Chaque été, le scénario se répète. Plage bondée, peau rougie et coups de soleil à l'appel. Pour casser cette banalité dangereuse, la Ligue contre le cancer frappe fort avec une campagne de sensibilisation au message aussi simple qu'efficace. Grillé au soleil, c'est 80 000 cancers de la peau et 2 000 décès par an. On n'est pas des saucisses. Avec ce slogan choc décliné en film d'animation, l'objectif est clair. Alerter sur les risques des rayons ultraviolets responsables de 8 cancers de la peau sur 10. En France, jusqu'à 243 500 cas sont recensés chaque année, dont près de 200 000 seraient évitables avec une meilleure protection. La campagne rappelle les bons gestes, éviter l'exposition entre midi et 16 heures, porter des vêtements couvrants, lunettes de soleil aux normes, chapeau à large bord et appliquer une crème solaire à indice élevé toutes les 2 heures, y compris par temps nuageux. Un appel ferme aussi lancé contre les cabines de bronzage jugées particulièrement dangereuses. Pour toucher les publics les plus exposés et précaires, des actions de terrain sont menées et de la sensibilisation dans les clubs de loisirs, les quartiers populaires ou encore auprès des gens du voyage. Dans un contexte où le nombre de mélanomes a quadruplé depuis 1990, la prévention n'a jamais été aussi essentielle.
Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.